Europe 1.
Europe 1.
14h, 15h.
On de la raconte.
Bonjour à tous. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle basée sur une mécanique qui est toujours fascinante, la révélation d'une double vie. C'est une affaire de 2005, jugée en 2009, l'affaire Liliane Paolov, qui se déroule sur un territoire, l'Alsace, situé à l'articulation de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. L'histoire d'une femme meurtrière qui pensait s'en sortir avec quelques mensonges et qui avait, disons, un peu sous-estimé les capacités d'enquête de la police. Je ne vous en dis pas plus. Voici donc l'affaire Paolov que j'ai écrite avec Emmanuel Denise, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'est l'histoire d'un type qui pensait que sa femme était femme de ménage en Suisse et qui, dans quelques heures, va tomber de l'armoire. Et d'ailleurs, le voici à l'action, ce mari naïf. Nous sommes le 12 mai 2005 dans une petite ville d'Alsace qui s'appelle Saint-Louis, tout près de la frontière suisse. Et sa femme, sa chère femme Liliane, en rentrant à la maison, vient de lui dire une chose terrible. Elle s'est faite agresser dans un parking. On a essayé de la violer. Il est 15h10 et voilà le mari qui débarque en courant au commissariat.
Ma femme a été agressée. Faut faire quelque chose, vite s'il vous plaît.
Calmez-vous monsieur, dites-nous exactement ce qui s'est passé.
Ma femme... Elle m'a dit qu'on avait essayé de la violer, dans le parking de la place de l'hôtel de ville. D'après ce qu'elle dit, c'était un type grand, dans un véhicule utilitaire de couleur bordeaux. Elle m'a dit qu'elle s'est défendue, elle l'a blessé au visage, et puis elle a réussi à lui prendre les clés.
D'accord, monsieur. Alors vous allez attendre ici, et nous allons... Et là, le policier n'a pas le temps de terminer la phrase, que le mari repart en courant. Et il va sur place, et il arrive avant les flics, et il va voir direct le gardien, toujours très excité.
Vous avez vu un type sortir? Il a agressé ma femme? Je vais lui faire la peau!
Il entre dans le parking avec sa voiture, il fait le tour plusieurs fois, et il s'en va. Et le gardien l'a trouvé tellement bizarre qu'il appelle la police. Quelques minutes plus tard, les flics de Saint-Louis entrent à leur tour dans le parking. Et ils trouvent assez facilement, sur la place 609, le véhicule utilitaire bordeaux. Un Citroën Berlingo. Ils s'approchent, ils allument leur lampe torche.
Y a rien? Tu vois quelque chose, toi? Ben non.
Dans la voiture, il n'y a qu'un tas de tissus. Et puis, l'un des flics se penche sous la voiture. Et là, il voit des gouttes de sang. Toc, 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 qui coulent de la voiture. Il ouvre. Il soulève les tissus. Un corps. Le corps d'un homme, torse nu, couvert de sang, avec des plaies sur le torse et dans le dos et sur le cou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On les fait venir pour une histoire de femme violée, et là, ils tombent sur un homme assassiné. Qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds? Alors, ils filent directement chez eux, chez les Paolov, chez la femme agressée et son excité de mari. C'est elle qui ouvre. Jolie. Très jolie, même. Une petite brunette de 25 ans, en sanglots.
Bonjour madame. Pardonnez-nous de vous déranger, mais...
Et là, la dame se met à courir vers la cuisine. Alors ils la suivent et ils la retrouvent dans la pénombre, de dos. Elle se retourne. Elle est couverte de sang. Elle en a sur les jambes, sur les avant-bras et même sur son sac à main, à côté. Du sang.
J'ai été prise en stop par un sale type. Il a essayé de me violer. Il m'a menacé avec un couteau. On s'est battu. Je sais pas.
Et là, elle se jette dans les bras d'un policier. Elle est en larmes.
Je crois que je l'ai poignardé. Je crois qu'il est mort.
Il est mort. Effectivement.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 2005 qui se déroule à Saint-Louis, en Alsace, à quelques kilomètres de la frontière suisse et de la frontière allemande. En début d'après-midi, un homme déboule au commissariat. Il dit que sa femme a été agressée dans un parking et dans ce parking, on trouve le cadavre d'un homme. Nous en étions là. Et cet homme, on lui donne assez vite une identité. Christophe Millet, 34 ans. La voiture est à son nom. Et surtout, ce qui permet de l'identifier tout de suite, c'est sa cicatrice au niveau des reins. Il avait donné un de ses reins pour sauver son frère. Et donc, on l'a tué. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a comme scénario possible ? Eh bien, celui que nous propose Madame Paolone. Il tente de la violer, elle se défend, elle lui arrache son couteau et elle le tue. Est-ce que ce Christophe Millet avait un casier judiciaire ? Ben non. Ses parents, ses amis, qu'est-ce qu'ils en disent ? Ben, ils disent que c'est un type gentil, calme. Ils ne le voient pas du tout en violeur. Il était au chômage. Il vivait mal, cette situation. Alors peut-être que... Mais ils n'arrivent pas à le croire. Et donc les policiers décident de placer Madame Paolone et son mari en garde à vue, chacun dans leur coin. Et ils commencent par cuisiner monsieur, parce qu'il y a aussi un scénario où c'est lui qui égorge l'agresseur de sa femme, énervé comme il l'était.
Oh ben c'est sûr, j'étais énervé. Si j'avais mis la main sur ce type, c'est sûr qu'il l'aurait regretté. Mais quand même pas au point de le tuer. Je suis pas comme ça, hein.
Entre-temps, les policiers ont mis la main sur les bandes de vidéosurveillance du parking. Ça tombe bien, le parking de l'hôtel de ville de Saint-Louis est truffé de caméras. Et la version du mari tient la route. On le voit faire des allers-retours dans le parking avec sa voiture, mais à aucun moment il ne s'approche de la place 609. Alors maintenant, passons à sa femme, à Liliane Paolone. Voyons ce qu'elle a à raconter.
Ben, ce matin, je suis parti travailler. Comme tous les matins, je suis femme de ménage, à Bâle, en Suisse. Et puis au retour, je dirais à peu près au niveau de la frontière, le type là m'a demandé le chemin du centre-ville. Il a insisté pour que je monte dans sa voiture. C'était sur ma route. J'ai accepté. Et puis quand on est arrivé au centre-ville, j'ai voulu descendre. Et là, il est entré dans le parking souterrain. Il a sorti un couteau. Il m'a menacé. Ensuite, il s'est garé et il a commencé à se déshabiller. Il disait qu'il voulait me violer. Mais là, je me suis débattu. Je l'ai mordu à la main. J'ai réussi à attraper son couteau. Et puis, je l'ai frappé. Au hasard.
Où ça ? Vous vous en souvenez ?
Dans la poitrine. Et puis au dos.
Bien. Alors voyons ce que dit la vidéosurveillance. On voit très bien la voiture descendre dans le parking. C'est lui, la victime, Christophe Millet, qui conduit. Et elle, elle est derrière. Et là, ça ne colle pas avec un enlèvement. Les policiers font zoom avant sur les images. Et là non plus, ça ne colle pas. Il n'a pas de couteau. Il tient le volant de sa main gauche et le levier de vitesse de sa main droite. Elle raconte n'importe quoi. Et ça se confirme quand tombent les constatations du médecin légiste. Elle dit qu'ils se sont battus, qu'elle a frappé au hasard, à la poitrine et dans le dos. Eh bien, ça ne correspond pas du tout aux blessures. Christophe Millet a été égorgé. Une plaie de 20 cm. Il a été tué par derrière. Et pas donc au cours d'une bagarre face à face. Elle raconte n'importe quoi. Et sur la bande vidéo, on la voit très bien quand elle quitte la voiture. Elle est parfaitement calme. Pas du tout la femme effondrée que les policiers ont vue chez elle tout à l'heure. Et c'est pas tout. En perquisitionnant chez elle, dans une boîte à chaussures, on retrouve le portefeuille de Christophe Millet. Qu'est-ce qu'il fait là ? Encore plus troublant, dans l'agenda de Madame Paolone, il y a le numéro de téléphone de Monsieur Millet. Et elle prétend ne pas le connaître. Ça fait beaucoup. Elle ne nous dit pas tout. Et donc ? Eh bien, elle file chez la juge d'instruction à Mulhouse. Elle lui resserre la même version. La pauvre femme qu'on a voulu violer et qui s'est juste défendue, à un iota près. Madame Paolone, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé le numéro de la victime dans votre agenda ? Ben, je l'avais rencontré, il y a quelques mois, par l'intermédiaire d'une amie. Mais je ne le connaissais pas, hein. C'était pas mon ami, pas du tout. Et le portefeuille qu'on a retrouvé chez vous ? Ben, j'ai dû l'attraper sans m'en rendre compte, c'est tout. Mouais. Elle est donc mise en examen pour meurtre. Et le soir même, elle dort en prison. La juge se dit qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Et elle est loin de se douter à quel point.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 2005. L'affaire Liliane Paolone, qui se déroule à Saint-Louis, en Alsace. Une jeune femme, Liliane Paolone, raconte qu'un inconnu a tenté de la violer, qu'elle a arraché le couteau de son agresseur et qu'elle l'a frappé au hasard pour se défendre. On le retrouve mort dans sa voiture, il a été égorgé. Placée en garde à vue, elle nie, mais on retrouve le numéro de téléphone de la victime dans son agenda et son portefeuille chez elle. Elle est mise en examen pour meurtre. Et bien sûr, le lendemain, on retrouve toute cette histoire à la une du grand quotidien L'Alsace. Et dans la foulée, les policiers reçoivent un coup de fil bien intéressant.
Oui, bonjour. Je suis directrice d'hôtel. Dites-moi, j'ai lu l'article là dans le journal. La victime là, monsieur Millet. Je le connais. Il venait facilement deux, trois fois par semaine. Hein, pour quelques heures, quoi.
Les policiers vont présenter la photo de Liliane Paolone aux femmes de chambre.
Ah oui ? Ah oui, c'est elle. C'est avec elle qu'il louait les chambres.
Et là, on se dit, il s'était amant. Il faisait des 5 à 7, c'est classique. Elle a tué son amant. Eh bien, pas du tout. Car l'hôtelière raconte que c'est lui qui réservait la chambre, lui qui payait avec sa carte bleue, lui qui réglait les consommations. Mais il ne mettait pas les pieds dans la chambre, jamais. Il donnait la clé à Liliane Paolone, il allait faire un tour dehors ou au bar de l'hôtel, et elle faisait ses petites affaires avec d'autres hommes. Elle se prostituait, et lui, ben lui, c'était son Mac. C'est ça le plus plausible. Elle cachait bien son jeu, la Liliane. Et son mari, alors ? Est-ce qu'il était au courant ? Eh ben, a priori, non. C'est le dindon de la farce.
Liliane ? Se prostituer ? Mais elle fait des ménages en Suisse ! Tenez, j'ai son contrat de travail !
Il pose le contrat sur la table. Il est bidon. C'est un faux. Il n'y a qu'une chose de vraie sur ce papelard. Le numéro de téléphone. Il correspond à un bordel de Zurich où la prostitution est légale. Et on s'apercevra plus tard que c'est là qu'elle a commencé dans le métier, en 2003. En attendant, le mari doit rendre les armes. Il ne connaissait pas vraiment sa femme. Ça arrive, hein ? Ça fait mal, mais ça arrive. plus souvent qu'on ne le dit. Alors la juge veut revoir Madame Paolone.
Dites-moi, Madame Paolone, vous n'auriez pas une double vie par hasard ?
Une double vie ?
Ah non, 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 pas du tout. Je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler.
Elle ne voit pas. Eh bien, elle va voir. La juge déroule sur le bureau des photos de la dame en toute petite tenue qu'on a retrouvée sur le site de prostitution suisse Happy Sex. Et là, l'autre ne peut plus mentir. Oui, elle se prostitue.
Mais j'ai pas eu le choix. Je faisais le ménage chez Monsieur Claude, le patron du site Happy Sex. Et puis il m'a forcé.
Et quel était le rôle de Monsieur Millet dans tout ça ?
Il avait un rôle ? Bah, c'est lui qui louait les chambres. C'est lui qui m'a emmené, qui me raccompagnait. C'est lui qui récupérait l'argent, quoi.
Bon, eh bien on a un peu avancé. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si le patron de Happy Sex l'a forcé ? Eh bien les flics vont voir les autres filles, inscrites sur le même site, et elles disent toutes la même chose.
Ah mais on m'a forcé à rien, hein.
Et ça se confirme quand une certaine Katia vient raconter qu'elle était avec elle quand elle a poussé la porte de Happy Sex.
Je peux vous dire que personne ne l'a forcée. Elle faisait vraiment ça de son plein gré, hein, vraiment.
Et cette Katia raconte aussi quelque chose de très intéressant. Au début, elle faisait tout à deux. Même petites annonces, même numéro de téléphone, une même chambre, un plumard pour deux. Elle travaillait en duo. Bon, c'est un genre, hein. Et du coup, elle situe assez bien la place de Christophe Millet. C'était pas vraiment un Mac, et pas du tout un homme de main de Monsieur Claude. C'était un pauvre type qui était d'abord venu comme client, qui était resté comme ami, un ami un peu envahissant, disons. Il n'était pas payé pour ce qu'il faisait, louer les chambres, prendre l'argent.
Vous savez, je crois qu'il faisait ça pour s'occuper. Il disait qu'il s'ennuyait chez lui. On lui disait de pas venir, mais on le retrouvait tous les jours sur le parking de l'hôtel.
C'était un Mac bénévole. Parce qu'en vérité, il était fou amoureux de Liliane. C'est pour ça qu'il venait tous les jours. On va découvrir qu'il lui envoyait des lettres d'amour, des poèmes. Il y a vraiment de drôles de personnages dans cette histoire. Voilà un mort bien attachant, en tout cas. Elle n'a pas tué un salaud.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Liliane Paolone, une affaire criminelle de 2005 qui se déroule à Saint-Louis, en Alsace. Une jeune femme qui se présente comme femme de ménage raconte qu'un inconnu a tenté de la violer, qu'elle s'est défendue et qu'elle l'a tuée sans le vouloir. Or, on découvre qu'elle est en fait prostituée et que la victime est l'un de ses amis proches. Elle a été mise en examen pour meurtre. Mais pour confondre totalement Liliane Paolone, il faut plus que ça. Le couteau, par exemple. Elle dit qu'elle le lui a arraché. D'où est-ce qu'il venait, ce couteau ? Le légiste dit que la lame faisait au moins 20 cm. On ne l'a pas retrouvé. Mais on a trouvé son emballage sur le siège arrière de la voiture. C'est un couteau de marque Durol, dont la lame doit bien faire dans les 20 cm, effectivement. Et coup de peau, des couteaux Durol. Il n'y a qu'un seul magasin qui en vende dans le coin.
Ah oui, oui, effectivement. Je vends bien cet article-là. Et j'en ai vendu un, pas justement, le 12 mai.
Le 12 mai, c'est-à-dire le jour du meurtre. À 13h30, une heure avant le meurtre.
Et l'acheteur a payé avec une carte ? Ah oui, oui. Monsieur Christophe Millet.
Et là, c'est énorme. C'est lui qui a acheté le couteau qui a servi à l'assassiner. Donc peut-être qu'elle ne ment pas quand elle dit qu'elle le lui a arraché. Coup de chance, le magasin a un système de vidéosurveillance. Le 12 mai à 13h30, on voit très bien Christophe Millet qui entre dans le magasin. qui farfouille de-ci de-là dans les rayons. Et à 13h33, on le voit qui sort son téléphone. Il essaye d'appeler quelqu'un. Manifestement, ça ne répond pas. Alors il ressort du magasin. On le voit courir jusqu'à une voiture qui est hors champ. Et puis il revient dans le magasin. Et là, il achète le couteau. Bizarre. Évidemment, la juge d'instruction interroge Liliane Paolone.
Est-ce que c'est vous, Madame Paolone, qui étiez avec Christophe Millet sur le parking quand il a acheté son couteau ?
Ah mais non, pas du tout. Moi, je ne sais pas où il a acheté ce couteau.
Mais une fois de plus, elle ment. Parce que si on regarde les déplacements de son téléphone portable, on la localise tout au long de la journée du 12 mai. Et on s'aperçoit qu'à 13h30, elle est là. Elle est devant le magasin où le couteau a été acheté. Du coup, la juge d'instruction l'interroge là-dessus.
Alors, Madame Paolone, la téléphonie montre que vous étiez avec Christophe Millet sur le parking du magasin. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé d'acheter ce couteau ? Mais ça va pas à la tête ! Faudrait vraiment être psychopathe pour faire un truc pareil.
Bien. Donc elle est psychopathe. Parce qu'elle était là, c'est sûr, elle était devant le magasin. Alors au final, quel a été son rôle exact ? Est-ce qu'il a vraiment tenté de la violer ? C'est possible, hein ? Il était amoureux d'elle, il était amoureux transi. Mais elle a tellement menti. Et puis qu'est-ce qu'elle faisait là, au moment où Christophe Millet achète ce couteau qu'il compte utiliser dans une heure pour la violer ? Il y a un mystère là. Mais il y a un moment où il faut bien clore cette instruction et renvoyer le dossier devant la cour d'assises. On est certain que c'est elle qui a tué. On doute de l'accident à cause de la blessure. On n'égorge pas quelqu'un par derrière, par accident. Mais sur les circonstances exactes du meurtre, il y a un flou. Et ce sera à la cour d'assises de se dépatouiller avec ce flou. En tout cas, elle est renvoyée devant les assises pour meurtre avec préméditation. Elle est renvoyée pour assassinat. Et il reviendra au juré de se forger une intime conviction. Le procès de Liliane Paolone s'ouvre en février 2009 devant les assises de Colmar. Ça fait 4 ans qu'elle est en prison. Elle apparaît dans le box amaigrie, fatiguée. Le premier jour est encourageant puisque dès le début, elle dit...
J'ai beaucoup menti. Je le reconnais. Mais je vais dire la vérité. Comptez sur moi.
Sauf que vous la connaissez. La vérité, c'est pas son truc. Et donc, elle est décevante, forcément. Elle continue de dire que Christophe Millet était un mac, qu'il était aux ordres de M. Claude, le patron du site de prostitution Happy Sex, qu'elle voulait arrêter de se prostituer et que ce jour-là, il a voulu, sur ordre de son patron, l'intimider pour qu'elle continue. Il s'en est pris à elle. Elle l'a tué, en état de légitime défense. À plusieurs reprises, la présidente lui met le nez dans ses contradictions.
Madame Paolone, le légiste est absolument formel. Monsieur Millet a été égorgé par derrière. Ça n'est pas un geste de défense, ça. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Mais je mens pas. J'ai aucune raison de mentir.
Et voilà tout. Si vous ajoutez à ça qu'au fil des audiences, elle est arrogante, elle est glaçante, elle est pour tout dire antipathique, eh bien elle ne convainc personne. Le sentiment général est qu'elle l'a tué volontairement. Mais pourquoi ? Plus le temps passe et plus c'est un mystère.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Liliane Paolone, une affaire criminelle de 2005 qui a pour théâtre la petite ville de Saint-Louis en Alsace.
une jeune femme, Liliane Paolone, raconte qu'un inconnu, un individu, a tenté de la violer et qu'en voulant se défendre, elle l'a tuée. Mais on s'aperçoit qu'elle ment, la victime n'est pas un inconnu, c'était un de ses amis. Et elle n'est pas femme de ménage, comme elle le prétendait, elle est prostituée. Le médecin légiste, enfin, dit que la victime a été égorgée par derrière, ce qui est assez peu compatible avec un geste de défense. On compte sur le procès devant les assises en février 2009 pour y voir plus clair. Mais audience après audience, on n'y voit pas plus clair. Elle l'a tué, c'est sûr. Volontairement, c'est quasi certain. Mais pourquoi? On ne sait toujours pas. À l'approche des plaidoiries et du verdict, on en est donc réduit à des hypothèses. Et la plus partagée est la suivante. Christophe Millet est amoureux d'elle. Et pour arriver à ses fins, il l'a fait un peu chanter. « Si tu ne couches pas avec moi, je révèle tout à ton mari, je lui dis que tu n'es pas femme de ménage et que tu te prostitues. » elle a peur du scandale, quelque chose que je ne vous ai pas dit. Elle a une petite fille qui a 3 ans au moment du meurtre. Si sa double vie est révélée, elle perd son mari et peut-être sa petite fille. On lui retire la garde, on la donne au papa. Et donc, elle tue Christophe Millet pour que le secret de sa double vie ne soit pas éventé. Elle le tue volontairement. Voilà. Vous savez, aux assises, on ne demande rien de plus aux jurés que de se forger une intime conviction, de se faire un scénario dans leur tête. Et c'est le scénario qui tient le mieux. Et c'est celui que retient l'avocat général, un meurtre avec préméditation, un assassinat. Auquel cas, elle encourt perpétuité, mais l'avocat général est bon prince.
Je vous demande de condamner Madame Paolone pour meurtre avec préméditation, à un minimum de 20 ans de réclusion criminelle. Je vous remercie.
Demain, il reste à entendre les avocats de la partie civile, les avocats de Madame Paolone, et l'accusé aura la parole en dernier. Avant de suspendre l'audience, la présidente tente donc une dernière manœuvre.
La nuit porte conseil, Madame Paolone. Réfléchissez bien d'ici demain. Demain, vous aurez une dernière fois la parole. Il sera encore temps de nous dire ce qui s'est réellement passé. Réfléchissez bien.
Mais c'est peine perdue, vous la connaissez. Elle a menti pendant toute l'instruction, elle ne fait pas marche arrière. Et Liliane Paolone est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Et entre nous, elle ne s'en sort pas mal, elle risquait perpète. Elle est en prison depuis 4 ans, elle y passe encore 4 ou 5 ans et elle est dehors. Eh bien, elle fait appel. Et elle est mal inspirée parce qu'en appel, 1 an et demi plus tard, elle prend 3 ans de plus, 23 ans de réclusion criminelle. Et on ne saura jamais pourquoi elle a tué Christophe Millet. Mais bien qu'elle soit en prison, on va encore entendre parler de Liliane Paolone. Car figurez-vous qu'en 2016, en prison, à Roanne, dans la Loire, la belle Liliane tombe amoureuse d'un surveillant. Elle lui retourne le cerveau, le type quitte sa femme, et il lui fait un bébé, et il lui fait passer un téléphone portable. Et ils se font pincer tous les deux, et en février 2017, ils sont jugés, lui prend 3 mois avec sursis, et elle 3 mois ferme. Si elle espérait une libération conditionnelle, ça tombe mal. Il lui faudra attendre encore un peu.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire Liliane Paolone en 2005 à Saint-Louis en Alsace, l'histoire d'une femme que son mari croyait femme de ménage et qui en fait était prostituée, et qui tue l'un de ses amis pour que son secret reste secret. Et je suis avec l'un de ses avocats, maître Dominique Bergmann. Vous avez été Dominique Bergmann son avocat pendant toute l'instruction, pas pendant le procès. Alors on a l'impression qu'au fond son mode de fonctionnement c'est que elle ment. Si elle est démentie par l'enquête, elle confirme, mais elle ne va jamais au-delà. Elle fait au fur et à mesure que le juge d'instruction, la juge d'instruction, découvre qu'elle ment, quoi.
C'est très bien résumé. C'est très bien résumé, c'est-à-dire que lorsque on est défendu par un avocat, l'idéal, c'est évidemment d'avoir la possibilité de fournir à son avocat le maximum d'informations, si possible en avance, c'est-à-dire ne pas être pris de court parce que le magistrat instructeur va nous apprendre au moment d'une audition. Mmh. Et effectivement, ça a été le processus, en tout cas, pendant toute l'instruction, et notamment au niveau de cette reconstitution tout à fait irréelle qui a eu lieu dans le parking souterrain qui se trouve à Saint-Louis.
Vous m'avez dit qu'elle était intelligente, Madame Paolone. Elle est aussi naïve quand même, parce qu'elle devait se douter que son téléphone portable était tracé. Elle pouvait se douter qu'il y avait une vidéosurveillance dans ce parking, non ?
Moi, je maintiens qu'elle était certainement quelqu'un... C'est une personne intelligente. C'est une personne intelligente. Mais vous savez, lorsque on est conscient d'une forme d'intelligence, quelquefois, on franchit la ligne rouge et c'est là que on est amené à avoir un comportement qui va s'avérer tout à fait désastreux pour une défense. Donc, je ne pense pas que ce soit une forme de naïveté. C'est plutôt le fait d'avoir joué, en tout cas parié sur un système de défense et d'avoir été pris à contre-pied pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire qu'en fait, le magistrat instructeur avait réuni un certain nombre de charges qui étaient indiscutables. Et c'est lorsque ces charges étaient exposées que cette jeune femme prenait position et reconnaissait ce qu'elle ne pouvait pas contester encore plus longtemps.
Alors,
c'était
mobile,
très compliqué.
Le mobile, Maître Bergman, on court après tout au long de l'enquête. Moi, j'ai exposé le mobile auquel a été parvenu les journalistes qui ont assisté aux audiences, qui ont suivi l'enquête, c'est-à-dire au fond qu'elle aurait tué Christophe Millet parce que il menaçait de révéler son secret, de révéler sa double vie. Est-ce que vous adhérez à ce mobile ou est-ce que vous avez autre chose à proposer, vous ?
Alors j'adhère à ce mobile à ceci près, c'est que, en tout cas, pendant l'instruction, nous avions le sentiment que la victime, ce monsieur, avait incontestablement des sentiments pour Madame Paolone. Et je crois que ce qui a pu se passer, en tout cas c'est ce qui ressortait de l'instruction, c'était que ce jeune homme avait fait une fixation sur cette jeune femme, laquelle n'avait absolument pas envie de donner suite à ce scénario. Et c'est peut-être là que la victime a été certainement claire dans sa réponse en disant « voilà, je suis repoussé, eh bien je vais donner des explications qui vont être évidemment très difficiles à assumer par sa jeune femme ». Je crois que cet élément-là a également joué dans le fait de déterminer le mobile.
Alors le mari, un mot sur le mari, parce que c'est le personnage du début de l'histoire. Bon, lui c'est le cocu, hein, au sens large du terme. Il ne savait rien. Il pensait que sa femme était femme de ménage. C'est sincère, ça ?
Alors, je pense que c'était sincère, même si nous avions à un certain moment eu, du côté de la défense, une forme de doute, à savoir que cette jeune femme fluette, légère, qui puisse ainsi s'en prendre à cet homme qui était un jeune homme costaud, mesuré presque 1m90, on a pensé à un certain moment que peut-être le mari était au courant de cette W. Mais c'est resté à l'état d'hypothèse, en tout cas au stade de l'instruction.
À aucun moment la juge d'instruction ne va chercher de ce côté-là ?
Non, absolument pas.
Alors je comprends, Maître, que vous ayez quelques regrets, parce que c'est une formidable affaire à plaider. Il fallait aller au bout de cette histoire. Est-ce que ce personnage de Liliane Paolone vous rappelle d'autres clientes que vous avez pu avoir par le passé ?
C'est une question tout à fait intéressante. Alors je répondrai oui et non. À la même époque, j'avais été amené à défendre trois jeunes femmes à peu près du même âge, et d'ailleurs qui s'étaient retrouvées dans la maison d'arrêt de femmes à Mulhouse. Et la caractéristique de ces trois femmes, c'était à peu près le même âge, une intelligence incontestable, je le maintiens, et un pouvoir exercé même sur leurs propres avocats. Hein. Ça, c'est une chose tout à fait évidente.
La fin de l'histoire, et puis on va se quitter là, mais on trouve la confirmation de ce que vous dites là dans ce qui s'est passé ensuite avec ce surveillant de prison. Je vous remercie beaucoup, Maître Bergman, d'avoir accompagné ce récit et de nous avoir aidé à le débriefer.
C'était Christophe Ondelatte que l'on retrouve chaque jour de 14h à 15h sur Europe 1. Demain, dans Ondelatte raconte un autre fait divers, l'affaire Marcel Luchien. Le chien, oui, cet instituteur de cours préparatoire à l'école d'un village de Cormeil en Normandie qui va être placé en garde à vue en 2001 pour 38 agressions sexuelles, dont 3 viols sur mineurs de moins de 15 ans. Dans un instant, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Une heure de confidence au micro d'Isabelle Morizet qui reçoit aujourd'hui deux comédiens, Pierre Ninet et Anaïs Demoustier, à l'affiche d'un film dont Europe 1 est partenaire, Sauver ou périr. Ne vous sauvez pas.